Et on retrouve Alain Hirung pour l'émission Dialogue entre Congolais.
Bonsoir. À l'occasion de la 31e journée nationale de la presse en RDC, ayant pour thème « Médias pour les élections apaisées », l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle, interpelle les professionnels des médias sur leurs responsabilités pendant la période électorale. Comment analyser cette interpellation de l'UNPC? Quel mécanisme mettre en place pour une presse responsable pendant cette période électorale? Nos invités dans cette émission sont Chantal Kanyimbo, président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Madame Kanyimbo, bonsoir.
Bonsoir.
Tivis Tshivwadi, secrétaire général de Journalistes en danger, GED en sigle. Monsieur Tshivwadi, bonsoir. Professeur Lapès Moukeni, professeur de droit et déontologie journalistique et professeur de presse écrite à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFACIC. Professeur, bonsoir. Vous êtes très nombreux déjà à nous envoyer vos réactions. Tengeneza de Kalemi au Katanga, je pense que l'interpellation de l'UNPC ne servira à rien car chaque média congolais a une appartenance politique. Belinda Maya, quand on observe notre paysage médiatique, je me demande vraiment si les médias congolais contribuent au débat démocratique ou c'est un danger pour la démocratie. Nous sommes mardi 26 juillet 2011. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Madame Chantal Kanyimbo, je rappelle que vous êtes présidente de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Vendredi dernier, on le sait, à l'occasion de la 31e journée nationale de la presse en RDC, vous avez demandé aux journalistes d'apporter leur contribution dans la construction de la démocratie naissante et à bien jouer leur rôle pour des élections apaisées. N'est-ce pas du déjà entendu?
Ah bah, c'est du déjà entendu peut-être, hein? Parce que déjà en 2006, vous le savez, nous avons largement contribué à la réussite du processus électoral et nous avons fait une évaluation ensemble, toutes les organisations professionnelles, et nous avons estimé, malgré tous les problèmes que nous connaissons, que nous avons dans notre profession, les médias ont quand même pu apporter leur contribution pour que ce processus réussisse, malgré la faiblesse des moyens, malgré la faiblesse économique. Et donc, c'est du déjà entendu, c'est peut-être vrai, mais moi, je pense que nous sommes dans un pays qui connaît le processus de démocratisation depuis une vingtaine d'années, un processus qui a connu beaucoup de difficultés, que nous avons connu également des conflits armés, et que, bon, depuis 2006, c'est vrai, nous avons eu les premières élections pluralistes dans notre pays. C'est une démocratie naissante, mais elle est encore fragile, et donc nous devons tous travailler à consolider cette démocratie si nous voulons vraiment qu'elle se perpétue dans notre pays.
Alors, quelle est la nouveauté dans cet appel?
Écoutez, il n'y a pas de nouveauté, c'est juste un rappel que, comme nous avons l'habitude de le faire, nous rappelons régulièrement aux professionnels de la presse notre responsabilité par rapport à l'immensité du pouvoir que nous avons. Comme vous savez, nous appelons nous-mêmes quatrième pouvoir à côté des autres, des trois pouvoirs institutionnels, et donc nous avons l'obligation de ne pas abuser de ces pouvoirs et de donner aux citoyens une bonne information pour que les citoyens puissent également participer à la gestion de la cité. Et donc, c'est juste un rappel. Régulièrement, nous interpellons les professionnels de la presse dans le cadre des différentes instances d'autorégulation, la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, qui est autrement appelée tribunal des pairs, mais également l'Observatoire des médias congolais pour le respect du code de déontologie. Et donc, c'est juste un rappel. C'est vrai, j'ai entendu exprimer quelques préoccupations par rapport aux réalités que nous connaissons ici des médias pour la majorité et appartiennent à des personnalités politiques. C'est vrai, ça peut être un obstacle, mais nous pouvons, si nous nous mettons ensemble, si nous respectons scrupuleusement le code de déontologie et d'éthique professionnelle, nous pourrons surmonter cet obstacle qui est réel, effectivement.
Alors, vous parlez d'un rappel. Peut-on dire ou peut-on affirmer que l'UNPC dresse un constat amer quant à la prestation des médias à la veille des élections?
Non, c'est-à-dire que tenant compte des différentes réalités, je dirais, dans l'espace médiatique de notre pays, nous avons pensé que c'était bon de nous rappeler à nous tous que nous avons un grand pouvoir pour influencer le comportement des citoyens dans un sens comme dans un autre, dans un sens positif comme dans un sens négatif, et que nous devons assumer nos responsabilités pour préserver le capital que nous avons aujourd'hui, cette démocratie naissante, cette paix fragile encore que nous avons retrouvée dans notre pays après plusieurs années des conflits. Et donc, continuellement, vous savez, à travers l'OMEC et la commission des disciplines, les professionnels de la presse sont rappelés à l'ordre par rapport aux dérapages que nous observons, des dérapages qui, comme vous le savez, existent depuis plusieurs années. Et si nous nous étions retrouvés au congrès en 2004 pour parler de la refondation de la presse congolaise, c'est justement parce que le constat a été fait qu'il y avait beaucoup de dérapages par rapport au pouvoir que nous avons. Il y avait non-respect des règles professionnelles, et donc il était temps que nous puissions retrouver mais à notre profession, c'est l'être de noblesse.
Prenons, Madame Chantal Kanyimbo, cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous.
Pepe Lisungi Botomoito depuis Goma dans la province du Nord Kivu. L'appel de l'UNPC n'est que goutte d'eau dans l'océan, car lors des élections de 2005-2006, la AM avait failli à sa mission à cause des journalistes qui travaillent dans des chaînes de politiciens qui n'ont pas respecté l'appel de ces derniers, c'est là pour protéger leur emploi. Et avant que l'UNPC lance cet appel, elle devrait d'abord organiser les choses dans des provinces où cet organe existe que des noms.
Réaction, Madame Chantal Kanyimbo.
Bon, écoutez, je ne sais pas si l'UNPC n'existe que de nom dans les provinces. C'est vrai que nous avons dans quelques provinces des comités qui sont hors mandat et que nous avons eu quelques difficultés pour renouveler ce comité, mais aussi longtemps que les assemblées générales ne sont pas encore organisées pour les élections, pour remplacer, renouveler les comités, ceux qui sont là restent en place et travaillent en attendant que ces assemblées générales puissent avoir lieu. Bon, j'entends l'appel, l'interpellation de notre compatriote de Goma par rapport au travail qui a été fait par la AM, les interpellations de la AM qui sont restées les lettres mortes. Je pense que c'est une expérience qui nous permet aujourd'hui, au regard de ce qui s'était passé en 2005-2006, où, bon, parfois quand même, hein, les procédures n'étaient pas non plus aussi respectées par la AM. Et donc, au regard de toutes ces expériences, nous pouvons envisager ensemble de voir les mécanismes que nous pourrons mettre en place justement pour protéger le travail de journaliste. Vous Merci. Savez, dans notre code de déontologie, il existe une clause de conscience qui fait appel à la conscience du journaliste quand il se rend compte qu'il est devant une information qui va à l'encontre de l'intérêt général, que ce journaliste refuse de publier cette information. Merci. C'est vrai, je sais, c'est vrai, je sais que c'est difficile dans la mesure où dans l'audiovisuel, même dans la presse écrite, la plupart d'organes sont propriétés des personnalités politiques qui ont mis les moyens en conséquence
Madame
parce
Kanyimbo.
Qu'ils avaient besoin de ces supports pour faire leur propagande, mais je pense
Madame
que
Kanyimbo.
Si nous nous mettons d'accord, et surtout avec le code de bonne conduite que les acteurs politiques vont signer, ça permettra, c'est un mécanisme qui permet justement d'aider aussi les journalistes à faire leur travail pour que...
Madame Kanyimbo, voilà, décidément, il est toujours un peu difficile d'arrêter certains confrères. Juste le temps de donner la parole à Chivis Chivoadi, secrétaire général de Journalistes en danger, j'ai dans sigle. Monsieur Chivoadi, comment vous analysez cette interpellation de l'UNPC?
Ben, écoutez, je vais dire aussi qu'une interpellation des journalistes, c'est un peu du déjà entendu, hein. On ne fait que ça, on ne fait que faire la morale des journalistes. Je pense que c'est pas le lieu dans cette émission de répéter la même chose. Mais par rapport au thème de votre émission, c'est-à-dire, disons, quels médias pour des élections apaisées, je voudrais dire qu'il ne faut pas ni surestimer le rôle des médias, ni le sous-estimer non plus. Pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays, je veux dire que cela ne dépend pas seulement des journalistes, mais aussi dire que avec des médias, avec la pauvreté des médias que tout le monde reconnaît, avec l'absence de professionnalisme qu'on constate dans la plupart des journalistes, et au regard de la corruption qui gangrène le secteur, je pense qu'il faut quand même aller au-delà des simples interpellations des journalistes pour réfléchir sur des actes et des actions concrètes qui peuvent aller dans le sens de faire respecter la liberté de la presse et de renforcer le professionnalisme des médias. Je pense que le problème se trouve à ce niveau-là où il faut en même temps défendre le droit pour les journalistes de pouvoir travailler sans être inquiétés, en même temps insister pour que des journalistes travaillent effectivement comme des professionnels. On a entendu dire que des journalistes travaillent dans des médias qui appartiennent à des hommes politiques, mais ce n'est pas une excuse. Dans tous les cas, si on veut que les médias puissent jouer un rôle, encore il faut relativiser le rôle des médias, je ne pense pas que quand des journalistes sont régulièrement menacés dans ce qu'ils sont en train de faire comme travail, quand ils sont arrêtés et quand même ils sont assassinés, je ne pense pas que cela permet, crée des conditions qui peuvent permettre à faire que des journalistes, dans un processus qui est le nôtre, puissent effectivement assumer ce rôle où ils doivent en même temps être des informateurs, mais en même temps jouer ce qu'on appelle un peu le rôle de chaîne de garde de la société pour dénoncer des irrégularités et des choses qui ne marchent pas. Parce que c'est le rôle du journaliste non seulement de servir un peu de caisse de résonance de ce qui est dit, mais c'est la responsabilité des journalistes aussi de faire changer des choses dans un pays. Et je pense que ça, c'est une responsabilité essentielle que des professionnels des médias, effectivement, essayent parfois de ne pas observer.
Alors, cette interpellation de l'UNPC n'est-elle pas tardive? Ne faudrait-il pas l'étaler dans le temps au lieu d'attendre simplement la période électorale?
Mais je pense que il faut peut-être multiplier des actions. J'ai bien parlé, dit l'interpellation, c'est bien, la morale aux journalistes, c'est bien, à l'occasion des ateliers, des séminaires, on le fait. Mais je pense que nous sommes à une période où il faut poser des actes. Et l'UNPC, et donc des actes dans le sens notamment de la régulation des médias et de l'autorégulation des médias. Et l'UNPC a aussi dans ses responsabilités de faire respecter par les journalistes les règles et les principes du métier. Et faire respecter, ça veut dire il y a des règles qui existent, et si ces règles ne sont pas respectées, il va falloir prendre des sanctions. Parce que ce qui fait problème dans notre pays, c'est justement l'absence des sanctions. On ne peut pas continuer à ériger des murs de lamentation sur ce qui ne marche pas, alors qu'on a le pouvoir de prendre des mesures et de pouvoir sanctionner pour corriger la situation. Aujourd'hui, il y a énormément de journalistes qui passent à côté justement de règles et de principes élémentaires de leur métier, mais il y a des instances qui sont qualifiées pour pouvoir prendre des mesures. Mais ces instances, justement, malheureusement, n'ont aucune visibilité et la situation est telle que, finalement, au lieu que la profession puisse prendre ses responsabilités, puisse se prendre en charge, on donne l'occasion à d'autres instances qui ne sont pas habilitées de pouvoir, effectivement, intervenir dans le secteur.
Jeannot Darou, en province orientale, le plus grand problème des Congolais est qu'ils sont hostiles au respect de la loi, au code de conduite. D'ailleurs, la plupart des journalistes se comportent en politiciens déguisés, Tuvis.
Ben, écoutez, ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être professionnel de médias. Et quand on dit un professionnel, ça veut dire quelqu'un qui connaît l'ABC de sa profession, qui connaît les règles et les principes qui organisent sa profession, qui la respecte. On a beau avoir ses opinions, on a beau avoir ses appartenances politiques, mais je pense que ce n'est pas le lieu de venir les exprimer dans le travail qu'on est en train de faire. Donc pour moi, l'indépendance des médias, j'ai toujours dit que l'indépendance n'existe pas. Un journaliste ne peut pas dire vraiment qu'il est indépendant, la neutralité non plus. Mais ce qu'on demande, ce qu'on attend des journalistes, c'est qu'ils se comportent en professionnel. Un professionnel, c'est celui qui connaît la loi qui organise la profession, c'est celui qui connaît l'éthique et la déontologie de sa profession et qui la respecte.
Alors, dans votre précédente intervention, vous avez fait allusion à certains dérapages déjà observés. Pouvons-nous dire que ces dérapages sont accentués avec la période électorale?
Davantage, parce que vous savez que pendant cette période, les médias seront beaucoup plus sollicités, parce que les journalistes seront beaucoup plus sollicités, parce que les médias eux-mêmes sont un enjeu. C'est lui qui va avoir un peu le contrôle des médias, peut avoir beaucoup plus de chances de faire passer son message. Et donc, les journalistes seront effectivement largement sollicités. Et je pense que c'est le moment aussi de faire en sorte de mettre les garde-fous. Les garde-fous, surtout, j'insiste, au niveau de la profession, au niveau de la régulation et de l'autorégulation. Malheureusement, il faut constater que nous sommes déjà dans un processus qui est déjà très avancé. Nous sommes à 3-4 mois des élections. Mais les instances de régulation, de l'autorégulation, n'ont aucune visibilité. On ne les voit pas, on ne les sent pas. Dans la dernière émission, nous avons parlé notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui ne vient pas. Malgré tout ce qu'on dit, ça ne vient toujours pas. Il y a des gens qui estiment peut-être que ce n'est pas urgent, mais c'est plus qu'urgent aujourd'hui de faire en sorte que cette instance de régulation puisse prendre place pour commencer à faire le travail.
Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, prenons cette réaction qui nous vient de Moba Okatanga pour vous, Chevis.
Les conditions sociales ne permettent pas aux hommes de médias d'être indépendants ou impartials. Ils ne peuvent que flatter et chanter la gloire des autorités qui leur sont favorables. Sachez que le peuple observe tout ce que la presse est en train de faire. Nous demandons aux autorités d'améliorer les conditions sociales des animateurs. Ceci favoriserait leur indépendance et attirerait plus d'auditeurs ou de téléspectateurs.
Le journalisme de la main tendue, réaction civile.
Ben écoutez, on a toujours dit que on reconnaît effectivement que les conditions de travail pour les journalistes sont difficiles, mais ça est difficile pour tout le monde. Ça peut expliquer un certain nombre de choses, mais ça peut pas justifier un certain nombre de comportements. Et si les journalistes, eux, commencent à justifier un certain nombre de choses négatives de comportement par le fait que ils ne sont pas payés, par le fait que tout ça, on ne peut pas accepter cela. C'est pour ça que je dis la main tendue, c'est rien d'autre que la corruption. J'en ai parlé ici avec des journalistes corrompus. On ne peut pas avoir une liberté de la presse digne de ce nom.
Professeur Lapès Moukeni, je rappelle que vous êtes professeur de droit et déontologie journalistique et professeur de presse écrite à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC. Professeur, quelle est votre analyse à ce niveau du partage qui se fait?
Je voudrais un peu revenir sur les deux réactions du début. Journaliste ne pouvant pas bien travailler parce que appartenance à des médias qui sont orientés, le journaliste congolais c'est un danger pour la démocratie. Non, je ne pense pas que le journalisme congolais soit un danger pour la démocratie. C'est un journalisme qui a fait ses preuves pendant des années et des années. Nous sommes peut-être en train de passer une mauvaise passe, mais bon, il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que l'appartenance à un média qui a comme propriétaire un homme politique peut pousser un journaliste à mal faire son travail? Je ne pense pas non plus. Tout le problème, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit ici.
Théoriquement, du moins.
Oui. Tout le problème ici, c'est qu'est-ce que le journaliste veut exactement faire? Et lorsqu'on se pose cette question-là, on revient à un problème fondamental. Notre pays a un malheur en ce moment ici, je crois toujours, mais plus en ce moment ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas une politique de communication. Qu'est-ce que nous voulons faire des médias? Quel type de médias nous voulons avoir dans ce pays ici? Personne ne s'est jamais posé cette question-là. À tout moment, on voit naître des radios, des télévisions, des journaux. Même si ce sont des radios et des télévisions qui émettent à quelques 500 mètres d'ici, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça a un auditoire, ça a une audience, ça a des gens qui écoutent et qui suivent, mais ça c'est un danger. Je ne crois pas que ça soit antidémocratique que d'arrêter les choses pendant un moment et de se mettre ensemble, les professionnels des médias, les instances de régulation et d'autorégulation, la fédération, peut-être même les politiques, pour qu'on se pose des questions. De quel type de médias dont nous avons besoin ici? Parce que moi, je pense que c'est ça le point de départ. Le jour où on pourra dire quels sont les médias, quels sont les organes de presse qu'on veut mettre en place ici, quel type de journaliste qu'on voudrait avoir ici, je crois que tout le reste pourra suivre. Parce que, on dit solution, les journalistes sont dans de mauvaises conditions de travail, ils ne peuvent pas fournir le meilleur d'eux-mêmes. Mais ces journalistes-là travaillent dans quels organes de presse? Des organes de presse qui les payent à peine. Mais ces organes de presse-là ont reçu l'autorisation, si pas ont reçu quelque part l'aval de se mettre sur la place publique. Et donc, le problème est plutôt structurel. Il faut partir de là avant qu'on puisse chercher à résoudre le problème qu'on voit tous les jours ici du mauvais travail des journalistes.
Quel type de journalistes voulons-nous avoir? Quel type de médias également? Professeur, aujourd'hui, le métier de journaliste, la profession est presque devenue un fourre-tout.
Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est un fourre-tout. Et le secrétaire général de GED le disait tantôt, si les organes, les instances de régulation et même la fédération n'interviennent pas, parce que ne fût-ce qu'à ce niveau-là, il y a comme une sorte de laisser-aller, mais c'est sûr que nous allons avoir des journalistes qui font tout, qui continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire.
Professeur Chivis Chivouadi a évoqué le manque de sanctions, manque pratiquement d'autorité de régulation. Nous allons d'ailleurs y revenir, votre commentaire.
Oui, mais il a tout à fait raison. Moi, j'enseigne des cours de droit. Quand j'enseigne des étudiants pendant toute une année, tout est gai, tout le monde comprend ce qu'on dit. Mais dès que ces étudiants-là vont en stage et qu'ils reviennent à l'université, ils nous disent, professeur, mais vous avez perdu votre temps parce que ce que nous avons vu sur le terrain ne nous permet ni de mettre en application ce que vous nous avez enseigné, ni de continuer à croire à l'exercice de ces métiers-ci sans qu'on puisse tomber dans les travers. Alors, quelque part, je crois que nous devons prendre le courage de nous arrêter et de reparler. Je ne pense pas que ça soit mauvais d'attirer l'attention, de parler souvent de la presse. Je crois que chaque année, nous devons avoir des contextes, des structures qui nous remettent tout le temps en mémoire que le journaliste a un rôle très important dans sa société et que ce rôle-là, il doit l'exercer en toute responsabilité. Ça, je crois qu'on ne sera jamais découragé de le dire. Je crois qu'on doit continuer à le dire. L'interpellation doit être permanente.
Deux réactions pour vous, professeur, venant Wabello de Matadioba Congo. Suite au degré qu'a atteint la corruption dans notre pays, le secteur du journalisme n'est pas épargné. Le moment des élections étant celui où les politiciens congolais évaluent leur force par rapport au nombre et à la qualité des médias, je pense que la tâche ne sera pas facile aux journalistes qui chercheront à se faire un chiffre d'affaires en lieu et place de respecter les exigences du métier, professeur.
Mais si au départ, ces journalistes-là travaillent dans des structures qui ne leur permettent pas de rechercher ces avantages-là, je crois que c'est déjà une barrière. Parce que on parle ici du journaliste individu qui sort de sa rédaction et qui va faire son travail. Mais s'il sort d'une rédaction où on dit ben, « va là-bas, débrouille-toi, ramène le plus d'argent possible ben, », il va faire n'importe quoi. Mais s'il sort d'une rédaction où on dit « si on apprend que tu t'es engagé à prendre de l'argent là où tu vas ben », je crois que ce journaliste-là va faire un peu attention. L'exemple, c'est Radio Okapi. Bon, quand on prend l'exemple de Radio Okapi, souvent les étudiants disent « Ah non, monsieur, vous ne savez pas ce que les journalistes de Radio Okapi font ». Mais je ne pense pas. D'apparence, c'est des journalistes qui vont sur le terrain, qui font leur travail, qui rentrent. Mais pour cela, il faut que la structure qui les envoie sur le terrain soit une structure réellement médiatique, une structure qui a les moyens d'avoir des journalistes. Et on ne peut pas créer une radio, une télévision ou un journal lorsqu'on n'a pas les moyens de payer ces journalistes-là. C'est la moindre des choses.
Omba de Kinshasa, quelle devrait être la position des médias appartenant aux leaders politiques quand ils sont devenus des instruments pour leur propre publicité ou campagne, professeur?
Je crois qu'on devrait... C'est pour cela que je reviens toujours à ça. Je crois qu'il nous faut une bonne politique de communication. Nous devons voir si réellement, c'est une bonne chose dans un jeune État comme le nôtre d'avoir des politiciens qui ont chacun une télévision. Parce que si on le permet quelque part, je ne sais pas quelle est la structure qui doit pouvoir réguler cela, mais si on permet que chaque politicien ait sa radio et sa télévision, mais je crois que ça ne sert à rien. On n'aura plus jamais des informations générales, on n'aura que de la propagande pour les politiciens.
Madame Chantal Kanyimbo, est-ce que vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà, il y a une question qui vous est destinée, un auditeur anonyme qui dit ceci, qui dit liberté de la presse, dit droit mais aussi devoir. Et parmi ses devoirs, il y a celui d'exhiber son identité avant de faire son travail, ici au pays ou ailleurs. Ça protège d'ailleurs le journaliste dans son travail. Comment s'y conformer quand il faut prier tous les dieux de la terre pour avoir la carte de presse de l'UNPC, celle de 2010-2011 a été délivré en avril ou mai 2011 et ce n'est pas tout le monde qui a payé qui l'a eu. Qu'en est-il du reste et quand doit-on payer pour avoir celle de 2012? Brève réaction, madame.
Bon, avant de réagir à ce problème de la carte des presses, permettez-moi de réagir rapidement aux différents points qui ont été soulevés, notamment ce qui concerne les sanctions. Vous savez, nous avons une commission des disciplines qui reçoit beaucoup de plaintes, hein, des tierces personnes, des personnalités politiques et même de n'importe qui. L'Observatoire des médias congolais également envoie des dossiers et nous prenons des sanctions. Nous prenons des sanctions et c'est rendu public. Nous préparons d'ailleurs un rapport que nous allons mettre à la disposition de l'opinion dans le cadre du lobbying que nous menons pour la dépénalisation des délits de presse, où il y a tout l'éventail des différentes fautes professionnelles commises et des sanctions prises à l'encontre des journalistes. Malheureusement, je pense que nous sommes les uns et les autres l'ont dit, le professeur Monkeni l'a dit, Tuvoadi l'a dit, nous sommes dans un environnement où il y a le laxisme bat son plein et même quand nous prenons ces sanctions, nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'il y a des personnes qui ont une parcelle de pouvoir et qui protègent ces journalistes, qui vont auprès de ces personnes pour avoir protection et ça pose un problème. Et nous espérons qu'avec le CESAC, parce que dans la loi sur le fonctionnement du CESAC, il est prévu des passerelles de collaboration entre l'instance des régulations et d'autorégulation pour veiller au respect des sanctions prises par la profession à l'encontre des journalistes qui ne respectent pas le code de déontologie et d'éthique professionnelle. Les sanctions sont là et sont prises. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parapluies qui protègent beaucoup des journalistes et il se trouve qu'on affaiblit la profession par ce comportement et que justement, une fois que la profession est affaiblie, quand vous faites appel à la profession pour vous protéger pendant qu'on vous empêche de faire votre travail, ça devient effectivement un problème. C'était juste un petit commentaire que je voulais faire à ce sujet.
Revenez à la carte de la presse.
La délivrance de la carte de presse. Bon, je pense que nous avons quand même fort avec notre partenaire, pour ne pas le citer, le PNUD, qui depuis 2009 nous soutient dans l'impression de la carte des presses, parce que nous avons eu beaucoup de difficultés après ce que nous avons connu avec la francophonie pour l'impression de la carte des presses. Imprimer une carte des presses nécessite la mobilisation des moyens. Et comme les journalistes ne cotisent pas, il est difficile pour l'Union nationale de la presse du Congo de mobiliser ses moyens pour payer l'imprimeur qui doit imprimer ses cartes des presses. Merci. Et nous répondons aux différents partenaires. Toutes les cartes ont été imprimées et je suis désolée de vous dire qu'il y en a encore nombreuses qui traînent au niveau de l'Union nationale de la presse. Merci. Du Congo, parce que les journalistes, bon, ils réchignent un peu à donner la cotisation nécessaire pour que nous puissions leur donner la carte. La carte de presse, comme elle est subventionnée par un partenaire, elle n'est pas vendue. Ce que nous demandons aux journalistes, c'est la cotisation annuelle qui est de 10 dollars pour permettre le fonctionnement de notre cadre fédérateur.
Merci.
Et donc, la carte de presse, elle est là. Ceux qui ont besoin de leur carte, ils peuvent passer à l'UNPC, en tout cas pour ceux de la ville de Kinshasa.
Merci.
Pour ceux des provinces, nous avons déjà envoyé.
Madame
et nous Kanimbo. Attendons d'autres formulaires pour pouvoir continuer à examiner
Merci madame, on a compris vos explications. Tuvoadi, le temps ne nous attend pas. Nous allons aborder directement la deuxième partie de cette émission. Quel mécanisme mettre en place pour une presse responsable pendant cette période électorale? Vous avez tout à l'heure fait allusion à la mise en place du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. La dernière fois, vous étiez dans cette émission et vous avez suivi le conseiller principal du chef de l'État qui avait dit que le problème se posait, le blocage se trouvait plutôt au niveau de la corporation. Qu'en est-il à ce jour?
Alors, vous me permettrez d'abord que je puisse corriger Madame la Présidente de l'UNPC, qui a parlé tout à l'heure, parlant du Conseil supérieur de la communication, il a utilisé le terme CESAC. Je voudrais encore répéter une fois que le sigle CESAC n'existe pas, ni dans la Constitution, ni dans la loi, n'est-ce pas, pourtant, la loi organique sur le Conseil supérieur. Donc, il faudrait vraiment que vous, les journalistes, vous puissiez...
Mais la loi parle du Conseil.
On paye le Conseil. Le sigle du Conseil supérieur, c'est le Conseil, et le CESAC n'existe nulle part. Il faudrait peut-être que les journalistes, vous puissiez aider, dans le rôle pédagogique quand même, aider les gens, évidemment, à pouvoir respecter, parce qu'un sigle, on ne l'invente pas, on ne l'improvise pas. Mais cela dit, je pense que la question est d'actualité. Nous attendons, et c'est urgent. Nous l'avons dit la fois passée, nous avons parlé ici des dérapages, et donc parmi les mécanismes, nous pensons que les mécanismes doivent être de deux ou trois ordres. D'abord, les mécanismes de régulation, d'autorégulation, qui impliquent des sanctions. Mais pour que ces instances de régulation et d'autorégulation puissent effectivement fonctionner, je pense qu'effectivement, il y a, Madame la Présidente a dit qu'il y a un certain nombre de choses qui se font, il y a des sanctions, mais ça doit être visible sur le terrain, parce que on ne régule pas, on ne fait pas de la régulation, de l'autorégulation pour les journalistes, mais on le fait pour la société, pour l'opinion. Parce que les sanctions, notamment de l'autorégulation, de l'OMEC, ou de la commission de discipline de l'UNPC, c'est des sanctions morales. Et cela ne doit pas attendre la publication des rapports, ça doit se faire au quotidien, c'est-à-dire au coup sur le coup. Quand il y a un dérapage, quand il y a une plainte, il faut que l'opinion voit qu'effectivement, au niveau de la profession, on prend en charge pour éviter que les gens puissent recourir à d'autres voies pour pouvoir trouver réparation à certaines choses qui sont commises dans la presse. Donc, je pense que c'est important. Que effectivement on puisse renforcer, peut-être il y a un problème de moyens au niveau des instances d'autorégulation, qu'on puisse chercher les moyens de renforcer le travail de l'autorégulation pour le rendre beaucoup plus visible, mais il est plus qu'urgent aujourd'hui que l'instance de régulation soit mise en place et qu'il soit effectivement dirigée par des personnes crédibles et compétentes. La fois dernière, effectivement, on a voulu donner l'impression qu'il y avait un problème au niveau de la désignation de représentants
dans la corporation.
Mais en tout cas, le blocage, je ne sais pas à quel niveau. Il s'est passé des choses, hein, et ça, nous pouvons nous le dire entre nous.
Au niveau de la désignation
des représentants de la profession, les choses ne se sont pas déroulées dans la transparence. Nous l'avons dénoncé, mais nous n'avons entrepris aucune démarche dans le sens de la contestation pour empêcher que ceux qui ont été désignés dans des conditions discutables puissent être validés, quitte à ce qu'ils soient jugés, en tout cas d'après nous, à l'œuvre. Donc le blocage ne peut pas saisir le prétexte et dire que non, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, mais non, on a pris acte. En tout cas, nous, au niveau des GED, nous avons pris acte des gens qui ont été désignés. On dit, tant mieux qu'ils soient investis, eh bien, on jugera le Conseil supérieur à l'acte de ceux qui seront ses animateurs.
La mise en place du Conseil est-elle le seul mécanisme pour avoir une presse responsable dans cette période électorale?
Il y a les régulations, c'est important, mais je pense aussi qu'il faut des mécanismes de sécurisation des journalistes. On l'a dit tout à l'heure, que quand des journalistes savent qu'en dénonçant des fraudes, quand ils savent que en critiquant un certain nombre de personnes, en donnant des informations qui dérangent un certain nombre de choses, ils risquent la prison, ils risquent la mort. Je pense qu'ils opèrent, ils font sur eux une sorte d'autocensure. Je pense que la sécurisation dont on parle, c'est la sécurisation aussi bien physique pour les journalistes, qui doit effectivement se sentir sécurisé, ça veut dire en mettant fin à l'impunité, ceux qui menacent des journalistes qui sont parfois des gens qu'on peut identifier, qui appellent des journalistes, qui leur envoient des textos de menaces, qui arrêtent des journalistes dans la violation la plus flagrante de toutes les procédures, mais qui ne sont pas inquiétés. C'est une façon de sécuriser les journalistes, c'est donc de mettre fin à cette impunité. Et deuxièmement, la sécurité juridique dont je parle, c'est de dire, il faut quand même que, au niveau de la loi, le journaliste soit protégé, qu'il se sente sécurisé quand il dénonce une corruption, quand il dénonce la fraude au niveau des élections, il n'a aucun mécanisme de protection. Il suffit que quelqu'un dise qu'il a été diffamé par tel journaliste, qu'il a donné une fausse information dans tel cas, et puis le journaliste peut terminer sa journée ou passer de longues périodes en prison. Et donc ça ne sécurise pas du tout.
Professeur Lapès Moukeni, parmi les mécanismes, tu vises à citer les organes de régulation, d'autorégulation, la sécurisation des journalistes, la sécurisation juridique. Professeur, quelle est votre analyse?
Moi, je pense que tous ces organes-là sont importants. C'est vrai, ça doit fonctionner. Mais j'ai peur que ça ne soit encore du déjà vu. parce que ce sont des organes qui existent depuis des années et des années. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on pense à autre chose. Il est vrai que maintenant, pour prendre des mesures de nouvelles politiques de communication, c'est un peu tard, parce que nous allons aux élections. Moi, je voudrais suggérer deux choses. Je crois que, quelque part, les journalistes doivent être solidaires entre eux. Moi, j'appellerais ça solidarité éthique ou solidarité déontologique. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire que ces élections-là, ce sont eux qui prennent la communication des élections en charge et que, quelque part, ils doivent s'entraider du point de vue de l'éthique, du respect de l'éthique, du respect de déontologie. Première proposition, ça pourrait se faire comment ? Entre des groupes de journalistes qui... ils ont énormément d'associations ici, hein, associations des journalistes pour les élections, qui n'aillent pas dans ces associations-là simplement pour fêter, mais qu'ils y aillent aussi pour se donner un certain nombre de règles de conduite. Deuxième mécanisme qui pourrait venir avant qu'on ne puisse penser à une politique générale de communication, ça pourrait être le travail en synergie. Souvent, les journalistes sont pris en défaut ou sont pris... sont inquiétés parce que souvent ils travaillent seuls. J'ai toujours préconisé que quelque part, si le journaliste congolais travaillait en synergie et éventuellement travaillait comme des journalistes d'investigation, c'est-à-dire tout un groupe, ceux qui font les élections, ce sont des journalistes des élections comme ils s'appellent, s'ils travaillent en synergie et qu'ils se partagent les informations, je crois que quand on inquiète l'un d'entre eux, les autres peuvent continuer le travail. Et je ne pense pas que là où il y a 10 journalistes qui travaillent sur les élections au Nord Kivu, s'ils sont à 10 et qu'ils se partagent des informations à 10, si on arrête le premier, on ne va pas arrêter tous les journalistes. Les autres doivent avoir le courage de continuer le travail. Je crois qu'à ce niveau ici, comme nous n'avons pas beaucoup de mécanismes, c'est vrai qu'on a les instances de régulation, d'autorégulation, on va appeler en aide la justice et peut-être les agents de l'ordre et tout le reste. Mais les journalistes eux-mêmes doivent pouvoir se protéger. Et se protéger, c'est être solidaire du point de vue de l'éthique, solidaire du point de vue du travail journaliste.
Professeur, il y a une réaction qui nous vient de Liège en Belgique pour vous.
Augustin Carindo Mouretti, Liège, Belgique. Pour un pays où la plupart des médias évoluent sous le poids de pressions politiques et économiques du pouvoir et des partis politiques, l'appel à la responsabilité des journalistes, leur encadrement par des dispositifs légaux et réglementaires classiques et spécifiques, l'impartialité et la neutralité de l'instance de régulation, ainsi qu'une certaine autonomie financière et matérielle, peuvent assurer le rôle du quatrième pouvoir dans la machine électorale.
Réaction, professeur.
Je crois que c'est une réaction défaitiste. C'est comme qui dirait, il n'y a plus rien à faire, c'est un pays pourri, tout le monde est pourri, il faut s'arrêter. Moi, je ne pense pas. Je sais qu'il y a des problèmes, mais nous n'allons pas oublier que le journaliste congolais a toujours travaillé avec des problèmes. Ça fait des années que le journaliste travaille. Et si ce pays ici a survécu, c'est en grande partie aussi grâce aux journalistes congolais. Il faut les lui reconnaître. Le journaliste congolais connaît certes des problèmes, mais nous allons réfléchir pour savoir comment s'en sortir.
Professeur Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga, seul un code de bonne conduite du journaliste déjà avant, pendant et après les élections et un bon traitement du journaliste pourront aider, mais que ceci soit le fruit du consensus presque public et celle du public et du privé, professeur.
C'est une idée, c'est un mécanisme peut-être qu'on pourrait mettre... en place, mais je ne sais pas si on pourrait avoir assez de temps maintenant pour réunir le public, le privé, pour arriver à ça. Mais bon, c'est une bonne idée. Hein. On peut mettre ça dans le panier des mécanismes qu'on recherche.
A-t-on les moyens pour tout ça?
Je crois que ce pays a beaucoup de moyens, mais c'est la volonté qui manque.
Madame Chantal Kanyimbo, en parlant de la mise en place du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Chivis Chivwadi a fait allusion à un grand manque de transparence dans les choix des animateurs. Comment vous expliquez ça?
Non, écoutez-moi, je ne sais pas de quoi il parle quand il évoque la transparence. Toutes les organisations intéressées étaient invitées. Le représentant des GED était également dans les débats. Il s'est dégagé une opinion sur la procédure à suivre et c'est cette procédure qui a été suivie. Comme il est dit hein, lui-même, ils ont pris acte même si le candidat qui était proposé par GED n'a pas été accepté par la confrérie telle que s'était retrouvée, elle s'était organisée et le mot de désignation qui a été proposé, je pense qu'il ne faut pas revenir sur ça. Il a été suffisamment élégant par rapport à cela.
Bon, alors, effectivement, moi, je voudrais soutenir
pour dire que du côté de la profession, il n'y a pas du tout blocage parce que nous avons effectivement suivi que le blocage venait du côté de la profession parce que le procès verbal a été envoyé le 22 avril, après 3 jours de concertation entre nous, et donc nous, on était un peu étonnés d'apprendre qu'on nous accusait de bloquer la machine.
Merci. Merci, madame. Il ne nous reste plus que moins de 4 minutes, d'ailleurs, pour terminer cette émission. Chivis Chivadi, comment vous réagissez au propos de madame Kanyimbo?
Non, mais je pense que je dis effectivement que le blocage ne peut pas nous. Nous sommes de ces organisations qui sont en train de réclamer à corps et à cri la mise en place rapide, n'est-ce pas, de cet organe qui est très important pour nous. Nous ne pouvons pas en même temps être ceux qui bloquent.
Mais jusque-là, le flou demeure. On ne sait pas à quel niveau ça bloque.
Si nous le réclamons, ce n'est pas parce que nous sommes partie prenante. Nous avions dit dès le départ que ni moi ni le président des jeunes n'étaient partie prenante dans cette course. Mais nous pensons que c'est un organe important pour la liberté de la presse, pour la régulation des médias dans cette période. Et c'est pour cela que nous voulons que cette instance soit mise rapidement sur pied et on en jugera aux actes.
Professeur Lapès Moukeni, la mise en place de ce conseil, de cet organe si important, malheureusement, traîne et on ne sait pas encore malheureusement à quel niveau ça bloque.
Moi-même, ça me serait difficile de dire à quel niveau ça bloque parce que je ne suis pas ça de très près. Mais lorsque je regarde tous ces organes qui naissent, je me dis, tiens, encore un organe. Bon, prions Dieu pour que ça puisse faire son travail comme il faut. Je crois que le problème, c'est pas tellement ces organes-là. Le problème est un problème structurel de fond. C'est un problème de responsabilité du journaliste congolais. Mais malheureusement, une responsabilité qui est entachée des mauvaises conditions de travail. Et donc, il faut absolument, au-delà des élections, prions Dieu pour que ça se passe très bien, au-delà des élections, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on dise quelle presse nous voulons avoir dans ce pays-ci et dans quelles conditions cette presse-là doit travailler. Si on ne se pose pas cette question de fond, tout ce qu'on mettra en place, on aura des tas d'organes en place, je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir. Parce qu'on en a eu, on a beaucoup d'organes. En ce moment-ci, d'ailleurs, la presse congolaise peut travailler avec les seuls organes qui existent. Il y a l'UNPC, qui est un organe fédérateur. Il y a l'OMEC, qui fait un peu office d'organe judiciaire, qui doit punir et tout ça. Mais pourquoi ça ne marche pas?
Professeur, juste un mot en guise de conclusion.
Moi, j'ai foi en la presse congolaise. Parce que je pense que c'est une presse qui a rendu énormément de services. Je pense que c'est une presse qui est en train de passer un mauvais temps. Peut-être que ça dure un peu longtemps. Mais je pense que si on y réfléchit profondément, on pourrait avoir une grande presse dans ce pays.
Merci professeur. Madame Chantal Kanyimbo, un mot également pour conclure.
Mais effectivement, je dirais aussi que la presse congolaise travaille dans des conditions très très difficiles, conditions sociales, conditions économiques, mais ça n'a pas empêché la profession d'apporter sa contribution dans l'édification de la société congolaise.
Merci.
Et la consolidation de la démocratie, et la presse sera ce président.
Merci, Chivis Chivadi.
Juste pour dire que la question du rôle des médias dans cette période ne peut pas être considérée comme une affaire des seuls journalistes. Je pense qu'au premier plan, c'est l'affaire qui devait intéresser le pouvoir public. Parce que c'est eux qui doivent savoir, comme on a dit, qu'est-ce qu'on veut faire de notre démocratie. Et si on reconnaît que les médias ont un grand rôle à jouer, il faut mettre cette presse dans des conditions qui lui permettent de jouer effectivement son rôle de quatrième pouvoir reconnu ou de contre-pouvoir dans une démocratie.
Merci monsieur, madame d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout aux auditeurs qui sont également très nombreux à nous suivre à l'Équateur, en relais sur Radio Lindisa, partenaire de Radio Okapi, émettant sur 102.5 MHz à Bouamanda. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.